Rendez-vous de la Francophonie is an annual celebration that promotes the French language, heritage, and its numerous cultural expressions. It runs March 2nd to 22nd, 2017 in communities across Canada. The RVF series, which showcases the diversity, duality, and dynamism of Canada's Francophone communities, is brought to you by La Fondation Canadienne pour le Dialogue des Cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. Please stay tuned for the next half hour for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie. Visit ncra.ca/RVF for more information on the series.
Depuis presque un an et demi, je réside dans la belle région de Niagara. Originaire de France, cela fait déjà 26 ans que je suis établie ici en Ontario. Je travaille dans le secteur des arts et culture et pour le nouveau centre des arts de la ville de Sainte-Catherine. Depuis mon arrivée dans la région, j'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup de nouvelles personnes d'origine, de culture, de tous les secteurs différents, avec des parcours personnels et professionnels très intéressants. Mais c'est vraiment le leadership des femmes de la région qui m'interpelle le plus, et aussi d'être capable de vivre pleinement ma francophonie, ici dans la péninsule. Le Canada, c'est une terre d'accueil. Le Niagara, c'est le berceau de naissance du Canada. Là où tout s'est joué au niveau historique. L'énergie ici est incroyable. Il est facile de se créer des racines profondes et un grand sentiment d'appartenance assez rapidement. Aujourd'hui, je choisis de dresser le portrait et de vous présenter trois femmes d'influence de la région avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à sympathiser, à échanger, à collaborer professionnellement et à bâtir des relations fortes. Trois femmes qui ne se côtoient pas vraiment entre elles, mais qui œuvrent chacune en parallèle et depuis des années, ici au Niagara, à faire valoriser leurs racines, la culture francophone et francophile, à partager avec le plus grand nombre possible tout ce qui les passionne, les fait vibrer, à faire bouger aussi et avancer les choses pour le plus grand bénéfice de toutes et tous. Suzanne Morin, originaire du Québec et responsable du développement économique pour Venture Niagara, une agence fédérale à la désignation bilingue, initiatrice très impliquée dans le secteur du franco et cyclotourisme ici, à la tête aussi de la table interagence, le regroupement de plus de 30 intervenants francophones de différents secteurs de la région, dernièrement très impliquée dans l'obtention des Jeux du Canada Niagara 2021. Elle favorise le bilinguisme, les rapprochements entre anglophones et francophones. Bonjour Suzanne, parle-moi s'il te plaît de tes racines francophones.
Moi, je suis une dame qui vient du Québec, originaire du Québec. Je suis née en 1960 et je ne suis pas gênée à vous offrir la date de ma naissance parce que je trouve que c'est assez important de partager le fait que j'ai vécu la crise au Québec. Et j'avais 9 ans quand les choses se sont dévoilées et que le Québec voulait se séparer du Canada. Et en étant une jeune fille, maman anglophone, papa francophone, je suis ici depuis 1995 et j'ai décidé de retourner vitement aux études pendant, je crois, c'était 6 mois, au Toronto School of Business, qui était ici à St. Catharines à l'époque, dans l'hôtellerie et la restauration. Et maintenant, j'ai travaillé à l'hôtel Best Western à Welland, qui était un hôtel qui cherchait à attirer le marché du Québec. Et c'était super incroyable pour moi dans mon histoire de pouvoir commencer là pour Niagara. Et je travaille toujours à faire la promotion de Niagara en français.
Comment as-tu vécu ta francophonie à ton arrivée dans la région?
J'aurais aimé que ce soit si facile. Mais la communauté francophone, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu ou ce que je pense que j'ai vu, elle était pas mal souterraine. Et les gens m'ont dit, « Ah, mais tu es francophone, tu demeures à St. Catharines. Allez voir à Welland, il y a beaucoup de francophones. » Je suis allée dans mon auto, ça faisait pas longtemps que j'étais ici, j'avais même peur, je savais pas où c'était exactement. Je pars à la retrouvaille, j'arrive à Welland, je trouve à droite, tourne à droite sur la rue East Main, et je vois pas d'enseigne, rien qui dit « nous vivons ici en français », mais je vois une enseigne pour une librairie, et c'était un magasin qui disait « ils vont lire », ils vendaient des livres. Et j'ai dit « bon, il y a au moins une entreprise qui parle français ». J'ai retourné ma voiture, je suis revenue à St. Catharines, et j'ai dit « bon, je n'ai pas trouvé de francophone
». Donc ça, c'était le début de ton aventure francophone au Niagara. Je pense qu'il y a eu un beau parcours fait depuis. Est-ce que tu peux donc me parler justement de ton parcours professionnel ici au Niagara depuis ton arrivée?
Eh bien, bon, je me félicite parce que je suis une femme francophone avec la tête dure et je suis allée à la recherche de ces gens. Et finalement, j'ai travaillé, comme je te dis, à l'hôtel Best Western. Je représentais donc pas juste l'hôtel, mais vraiment la région de Niagara en tant que francophone à des salons au Québec, à Montréal, la ville de Québec, etc. Et je faisais la promotion non seulement de l'hôtel, mais de la région de Niagara, mais en français. Et je me suis trouvée en étant une de peut-être 3, 4, 5 personnes qui comprenaient ou savaient ou voyaient la possibilité du marché québécois. Et la région de Niagara, à l'époque, avait des employés qui comprenaient l'importance et le potentiel de ce marché. Et quand j'ai trouvé ces gens-là qui comprenaient, j'essayais de travailler avec eux. J'ai tout fait pour travailler avec eux. Et finalement, oui, on a travaillé ensemble, on a fait des beaux projets, on a développé le guide touristique La Saison de Niagara, le site bonjourniagara.com, qui existe encore aujourd'hui, après 15 ans peut-être. Et c'est les seuls points de marketing en français pour la région de Niagara encore aujourd'hui. Et j'ai travaillé avec les entreprises pour qu'eux, qui étaient surtout anglophones, qu'ils comprennent le pouvoir d'achat de ce marché-là du Québec. Et même depuis ce temps-là, l'été, je regarde les plaques d'auto dans la région de Niagara. Et quand je vois une plaque du Québec, je me dis, hey, mon Dieu, mon travail a bien tourné. Il y a des Québécois qui viennent encore ici à Niagara et qui viennent boire du vin et faire du vélo. Et c'est ça qui m'a apporté à faire d'autres projets.
Tes liens profonds tissés ici avec la communauté francophone au Niagara, ça s'est passé comment?
Ça m'a apporté à travailler avec la communauté francophone parce que les francophones étaient super contents quand on a commencé la campagne « Bonjour ». On avait des épinglettes qui identifiaient des gens et des jeunes qui étaient francophones ou bilingues ou en langue immersion à l'école, en français, et d'utiliser cette langue et de l'écrire sur leur curriculum vitae et de pouvoir se faire engager peut-être un petit peu plus vite que d'autres. Et la communauté francophone a été super, nous a appuyés beaucoup et super contents de voir, de se faire valoriser la langue et de mettre ça dans le développement économique et l'employabilité. Fait que c'était pour moi le début de faire comme un pont entre la grande communauté de Niagara dans le développement économique et notre communauté francophone qui était vraiment un moteur eux-mêmes. On a des écoles, on a des entreprises, on a les secondaires, les garderies, un centre de santé communautaire, comme on le sait. Mais c'était vraiment souterrain. Et moi, ça me tannait, ça. Il faut vraiment être fier et d'élever cette communauté-là. Et on y arrive. On y arrive parce que nous, on a développé une table interagence aussi avec ma collègue Lucie Huot, avec CERF Niagara, qui est le Centre d'emploi et de ressources francophones. Et ces agences-là se rencontrent tous les 4 mois, je crois, ou 3 mois. Et pour discuter de qu'est-ce qui se passe dans la communauté francophone. On a fait beaucoup de consultations communautaires, etc. Et maintenant, on sait qui on est et qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut représenter dans la grande communauté ici, dans le développement économique ou santé ou les aînés, les jeunes, etc.
Merci, Sou, pour ta grande générosité et ton temps aujourd'hui. Très apprécié. Merci.
Merci.
Michèle-Élise Burnett est métis. Elle travaille depuis des années à mettre en valeur les traditions autochtones et à aider à réconcilier les peuples, à faciliter les rapprochements à travers l'éducation et des projets culturels. J'ai demandé à Michèle-Élise de me parler de ses racines.
Je suis fière d'être métisse. Ma grand-mère, elle est Mekama, et puis mon grand-père Abeniki de Maniwaki. Alors, ma mère et ses deux frères ont été élevés dans le nord du Québec, près de Mont-Tremblant. Et donc, ils ont parlé français parce que mon arrière-grand-père, il a laissé la réserve. Et puis, ils ont pris le nom. Mon nom, c'est Kakikalanix de mon grand-père. Mais parce qu'ils voulaient vraiment s'assimiler, c'est ça? D'être Ils ne voulaient pas être reconnus comme un Indien dans le temps ou autochtone. Alors, ils ont pris le nom de Petite Roche, alors Rochon. Alors, son dernier nom, c'est Rochon, mais c'est vraiment Kakikalanix. Mais ils ont connu leur héritage, mais pas plus que ça. Alors, ma mère et mes deux oncles, ils ont été élevés en pensant qu'ils étaient avec l'Église catholique. Ma mère est allée à un couvent. Et puis, elle m'a jamais vraiment dit plus que ça. On dit residential school pour les autochtones, mais elle m'a jamais dit que c'était ça. Parce que c'était très difficile. Elle m'a dit que c'était un temps très, très difficile pour elle. Elle me disait toujours, tu vois, Michel-Élise. Mais je sais que les sœurs, ils étaient très, très sévères avec ces filles-là. Mais elle m'a dit, Michel-Élise, il y a des positifs qui ont sorti de ça. C'était grave d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai appris à parler français, j'ai appris à lire, à écrire, j'ai appris à me tenir et de l'étiquette, éventuellement, qui m'a donné une éducation pour sortir du petit village et de poursuivre la radiodiffusion et de travailler avec CBC, de voyager le monde. Alors, ça, c'est le côté francophone, c'est que ma mère, elle a été élevée dans un endroit francophone en étant autochtone. Je suis allée à une école, Immaculée-Conception, une école francophone, et c'était intéressant parce que c'était durant les années 70. Et ma mère, qui est très noire, les yeux noirs, qui parlait un français impeccable, et me voilà avec les cheveux pas exactement blonds, mais avec des yeux bleus. Mais je n'allais pas à la cathédrale, je ne poursuivais pas l'Église catholique, mais c'était une école catholique. Et puis quand les gens ils me demandaient, mais quelle est ta religion? J'ai dit, je suis un autochtone, parce que ma mère me disait toujours, tu vas être fière de qui tu es, parce que c'est très important de savoir qui tu es. Et puis d'aller à l'école tous les jours avec des épaules et puis de regarder très haut et dire « Oui, je suis autochtone puis je suis fière. » « Pourquoi tu parles français? » « Parce que ma mère, elle a vécu puis elle a grandi au Québec. » Mais alors, c'était très difficile pour les étudiants et mes amis pour comprendre que j'étais autochtone ou métisse parce que mon père était anglais. Pourquoi je parlais français? Je me rappelle, il y avait toujours un peu de friction.
Comment est-ce que tu vis, en effet, et que tu continues donc à évoluer et à partager donc cette fierté autochtone, métis, francophone, au sein donc de tous les projets auxquels tu es impliquée? Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais les choses qui te sont vraiment chères, les choses qui se tiennent vraiment à cœur, l'éducation, on en a parlé, les rapprochements, la communauté.
La communauté, ça commence toujours avec la communauté. La radiodiffusion, mon grand-père, il a commencé dans les années 1920. Alors, je suis la troisième génération diffuseur de radio. Alors, nous, on avait une philosophie que la radio, c'était vraiment le cœur d'une communauté. On donnait les nouvelles, les papiers, c'était vraiment l'information de demain, de hier, je veux dire. Alors, pour nous, c'était vraiment important avec cette philosophie d'être partie d'une communauté. Alors, du début, mes parents m'ont enseigné qu'on est partie d'une communauté puis qu'on est là pour éduquer une communauté, pour aider une communauté, pour rapprocher les gens, pour faire des liens qui sont très forts, comme une sache de métis. C'est des liens, c'est tissé, c'est communauté, soit c'est une communauté francophone, métisse, autochtone, Première Nation. Si on trouve une vibre avec une communauté, et puis on y croit sincèrement, avec une passion incroyable, alors c'est ça qui te fait vibrer, c'est ça que tous les jours, tu portes ça tous les jours et tu supportes, et tous les jours on se réveille, on dit « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette communauté ?» Qu'est-ce que je peux faire pour éduquer la communauté qui, peut-être qu'il ne comprend pas tout, qu'est-ce qui se passe, ne comprend pas l'histoire ou malheureusement pas eu l'histoire de, disons, des autochtones ou des métis. C'est mon travail, c'est ma responsabilité en étant métis et autochtone d'éduquer les autres et de même éduquer mon peuple.
Célébration des nations, qu'est-ce que c'est?
Célébration des nations, c'était une idée Il y a quelque chose qui m'est arrivé trois ou quatre ans, et quand je travaillais sur Landscape of Nations, on dirait que tout à coup, j'ai eu une « aha moment ». Et j'ai dit « ah, c'est ça que je dois faire, je dois continuer cette route que ma mère a commencée, il va falloir que je continue son trajet ». Mais comment faire ça? Alors, je sais que c'était l'éducation premièrement. Et puis, c'était pas l'éducation, c'était une éducation autochtone qui vient de notre voix, qui vient de notre histoire, de nos yeux. Ça, c'est très, très important. Et puis, là, on a déroulé, puis c'était le Peace and Reconciliation Treaty, qui a tout à coup, j'ai dit, ah, le Peace and Reconciliation, des deux côtés, pas des deux côtés, mais des Six Nations de Grand River et puis les Six Nations de Upstate New York. C'était avant, on n'avait pas de douane, on n'avait pas de barrière. Alors, c'était des cousins, des oncles, des tantes, des frères qui habitaient n'importe où, maintenant c'est les États-Unis ou le Canada. Alors, ça m'a venu à. Je voulais avoir a Peace and Reconciliation sort of walk. Et puis une marche d'un côté à l'autre. Et je voulais célébrer que nous, on ne reconnaît pas les douanes. Et puis de réunir avec tous les drapeaux des Six Nations et des Alliés et de marcher sur le pont de Peace Bridge. C'est la rivière Niagara qui représente pour moi Two Row Wampum. La libération des nations, c'est justement ça. C'est de commencer avec l'éducation puis les différentes nations qui sont ici au Canada, ici à Niagara, à l'art de partager nos traditions, notre culture, parce que tout le monde, les gens, ils pensent qu'on est tous pareils, mais on n'est pas tous pareils. C'est comme dire, je suis québécoise et vous êtes française. C'est une culture qui est semblable, mais parce qu'on parle la même langue, mais c'est complètement différent. Alors, c'est d'amener les différentes nations autochtones ensemble, de partager les histoires de nos traditions, mais en même temps, de partager ça avec la communauté. Parce que si on éduque tout le monde, alors on va devenir plus fort. Si on peut respecter, puis voir, et puis d'apprendre les autres nations, leurs traditions, leurs chansons, leurs danses, n'importe quoi, et puis d'avoir un respect mutuel, alors on aura aussi un respect mutuel de la communauté, même du Canada, partout.
On doit essayer donc de se rapprocher, de se rencontrer à un moment donné pour pouvoir échanger, mieux se connaître les uns les autres. Est-ce que c'est ça, Célébration des Nations?
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, devenir ensemble, un rassemblement qui aura lieu le 7 septembre, possiblement. On va ouvrir, mais c'est vraiment, on ouvre le 8 9 et 10 septembre ici à First Ontario Performing Arts Center à Sainte-Catherine. Et on commence avec Buffy Sainte-Marie. Et après ça, on a Rumble, The Indians Who Rock the World. Alors, c'est un documentaire qui parle des Autochtones qui ont partagé, qui ont vraiment changé les fibres de la musique. Alors Buffy, elle avait beaucoup à dire dans le documentaire. Alors, okay. Elle sera là vendredi soir et puis aussi elle va parler Her Moccasins Talk. On aura un panel où on aura Santi Smith de Kahawi Dance Theater et puis Buffy Sainte-Marie et puis aussi Allison Fisher. Elle a Wabano Health and Well Center en Ottawa.
Donc c'est un week-end, donc un grand rassemblement qui va offrir à travers les arts et la culture toutes sortes d'opportunités d'en apprendre le plus possible sur les nations, les Premières Nations autochtones. Et également, ce sont des activités qui vont être ouvertes à tous les âges, j'imagine. Mmh. Des activités manuelles aussi, des ateliers qui vont être...
Beaucoup d'ateliers. Puis que les gens peuvent vraiment participer. Et puis aussi de demander des questions. Il y aura, on appelle ça des cercles, où on va avoir des discussions, mais même pour les enfants, c'est de bâtir un tambour autochtone ou d'apprendre une leçon, une histoire, une chanson autochtone, de danser avec le Métis Fiddler Quartet, d'apprendre à jig, apprendre les différentes danses autochtones traditionnelles.
Grosse programmation et le site web pour en apprendre plus sur cet événement?
Célébration des Nations avec un S.ca.
Merci, Michel-Élise, de partager avec nous aujourd'hui. Et un grand merci et puis meilleurs vœux, bonne continuation sur tous les fronts.
C'est moi qui vous remercie, Miigwech.
Juliette Dunn est une chanteuse, actrice, fondatrice et directrice du festival Tidi Niagara Jazz avec son mari, musicien Peter Shea. J'ai discuté avec Juliette et lui ai demandé d'où viennent ses racines francophiles, sa passion pour la musique française et jazz.
Alors, moi, je suis anglaise à la base, née en Angleterre et moitié jamaïcaine, mais j'ai toujours voulu parler le français et j'ai toujours aimé la mode quand j'étais jeune. Et je me suis dit, je vais aller à Paris. Et donc, je suis allée à Paris à l'âge de 18 ans pour un an comme une jeune fille au pair. Je suis restée 13 ans.
Comment la musique est venue jouer un rôle aussi important dans votre vie?
En fait, j'ai fait plein de choses à Paris. Donc, j'ai commencé comme jeune fille au pair et après, j'ai fait vestiaire, j'ai fait serveuse, barmaid, etc. dans plusieurs endroits à Paris. Et un endroit, j'étais, je pense que c'était à La Mousson. C'était 1988, il y a longtemps. Et il y avait une copine qui était de Chicago, Camille, et elle écrivait en anglais des paroles pour les musiciens français parce qu'ils voulaient faire un groupe qui s'appelait Groove Allegiance. Et donc, elle m'a dit ils ont besoin de deux choristes pour ce groupe. Et parce que c'était six mecs, ils n'ont jamais eu des choristes. Pour, c'était un show à l'Olympia, je pense. Enfin bref, donc j'ai fait ça. Et j'ai eu un goût de chanter live. Mon prof de chant, c'était un monsieur Jean Salamero qui était très dans le monde de jazz. Donc, il m'a mis dans ce monde-là. Et donc, à l'époque, j'avais à peu près peut-être 19-20 ans. Et je suis tombée amoureuse de la musique jazz. Donc, ça a commencé là. Mais j'ai jamais chanté du jazz à Paris. J'ai écrit quelques chansons avec Priva, le guitariste avec qui celui que j'avais rencontré. Mais j'adorais le jazz. Et avec Jean, je travaillais sur le jazz. Et donc, plus tard, j'ai travaillé dans une boîte de jazz qui s'appelait le New Morning pendant 4 ans comme serveuse. Et j'ai vu tous les grands qui faisaient les tours. Donc, j'ai vu Diana Krall, avant qu'elle était super, super grande. C'était une salle d'à peu près 500 personnes. J'ai vu Kenny Garrett, plein de gens que j'ai vus. Betty Carter, plein de gens très connus dans le jazz. Et j'étais serveuse. Et c'était genre d'apprendre par osmosis.
Juliette, donc, à votre arrivée ici dans la région de Niagara, vous avez rencontré toutes sortes de membres, si je puis dire, de la communauté et de la région. Votre expérience avec les francophones, justement, de la région de Niagara, de la communauté francophone?
Oui, alors, comme je ne connaissais pas du tout la communauté de Niagara, j'étais très étonnée de découvrir qu'à Welland, il y a beaucoup de francophones. Aussi à Sudbury, donc c'est drôle. Et ma connexion avec tout ce qui est francophone, au début, j'en faisais pas grand-chose avec parce que j'étais au Shaw Festival et c'était 7 jours sur 7 pratiquement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh, parce que je parle français et j'adore la langue, je devrais peut-être faire un disque en français. Donc, j'ai fait un groupe qui s'appelle Le Trio Parisien. Et donc, c'était très embrassé par la communauté francophone ici et aussi par les Anglais. Et donc, c'est très sympa parce que je peux chanter en français et faire encore une éducation de la musique française aux anglophones qui ne savent pas, par exemple, que « My Way », c'était écrit en français, ou c'est comme d'habitude, ou que les Feuilles mortes et toutes ces chansons très connues qui sont français. Ça, c'est intéressant.
Une francophile, donc, acquise à Paris en 13 ans, donc,
ouais.
et toute cette expérience, donc, que vous avez vécue. Et votre amour pour la culture francophone.
Ouais.
Vous avez été capable également donc d'explorer et donc de partager ici à votre arrivée avec la communauté franco-ontarienne.
Voilà.
Donc de la région Niagara, très vibrante. Je pense qu'il y a environ 16 000 francophones dans la région.
16 000, ça je ne savais pas.
Absolument.
Oui, il y a monsieur Roger Robillard qui était au école catholique, je pense.
Des écoles également francophones.
Voilà. Et lui, je ne me rappelle plus comment on s'est fait connexion, mais il m'a fait venir dans l'école. Et aussi, j'ai fait des spectacles à Welland.
Encore une fois, je suis très impressionnée. Comme quoi, la musique n'a pas de frontières, n'est-ce pas?
C'est vrai, c'est vrai.
La musique n'a pas de frontières et permet donc d'unifier.
Oui, tout à fait.
De rapprocher, de faciliter les rapprochements entre des gens donc, de tous les âges et de toutes les cultures différentes.
Hein. Ouais. Et moi, je ne pourrais pas imaginer un monde sans musique, vraiment.
Ah, ça, c'est bien dit.
Ouais. Et mon mari Peter, il dit, quand on dit « Ah, vous n'aimez pas le jazz », et si quelqu'un lui dit « J'aime pas le jazz », il dit « Ah, d'accord, donc vous n'aimez pas la musique ». Parce qu'il dit « Le jazz et le blues », c'est quand même des racines de... Même le hard rock et tout ça, il y a des racines dans le jazz et le blues. Donc, il dit, si vous n'aimez pas le jazz, vous n'aimez pas la musique. Et j'aime bien ça. C'est très impressionnant qu'il y a autant de franco-ontariens ici. Parce que moi, comme j'ai vécu à Vancouver et après à Paris, je ne connaissais pas le monde franco-ontarien. Et aussi, j'ai travaillé à Sudbury. Il y en a beaucoup de francophones là-bas aussi. Donc, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est très surprenant d'apprendre cette autre communauté within la communauté. Je trouve que les anglophones sont très attirés par la francophonie parce que quand on fait ce spectacle, les gens, ils adorent. Ils adorent. On fait souvent un thème, hein, Springtime in Paris ou April in Paris, etc. Et donc, je chante en français. Quelques chansons, je fais qu'en français, comme les chansons de Josephine Baker, etc. Mais d'autres, je commence en français et après, je fais la version anglaise. Ou si je chante en français, j'explique ce que je dis ou ce que je chante. Et les gens, avec l'accordéon, oh, c'est comme d'y aller à Paris. Et c'est très sympa. Et moi, ça me fait chaud au cœur parce que pour moi, Paris et la France, c'est vraiment culturellement une grande partie de ma vie. Et de pouvoir le partager ici à Ontario avec d'autres gens, ça, c'est vraiment très sympa.
Merci, Juliette.
Merci.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rins du tout, mais qui en disent long.
Thanks for joining us for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie, presented by La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and the station. To learn more about the RVF series and the National RVF Celebration, and to send us your comments, visit ncra.ca/RVF.